Bon, alors bonsoir à tous, merci d'être venus. Alors je vais vous parler de magnétisme et puis d'humanisme. Et tout d'abord je vais me présenter. Donc je m'appelle Sébastien Verger, j'habite en Ardèche, perdu dans la montagne. Et j'exerce le titre de formateur en magnétisme humaniste. Je fais aussi de la géobiologie, donc ça c'est plus ce qui a trait aux énergies des lieux. Et je m'occupe d'une famille qui grandit, qui rapetit, qui grandit un peu au fur et à mesure des années, qui est le regroupement, la fédération des magnétiseurs et magnétiseuses humanistes, parce qu'elles sont plus nombreuses que la gente masculine. Voilà, donc c'est un peu mon expérience. Moi, pour ceux qui connaissent, j'ai eu la chance de rencontrer Sarah Chapin, qui était une élève de Barbara Brennan, écrit Le pouvoir bénéfique des mains, qui est une américaine, voilà, avec qui j'ai commencé ce chemin il y a quelques années maintenant. Alors voilà, le magnétisme, c'est tout ce qui a trait aux énergies, aux fréquences, hein, les sons, les couleurs, ça ce sont des vibrations. Et pourquoi humaniste ? Parce qu'on voulait mettre ces fréquences, ces énergies au service de l'humain. Ah même, alors il y avait une équation à résoudre qui était qu'est-ce que c'est que l'humain ? À l'école, on nous apprend que c'est un tas d'atomes, et puis on descend du singe. Bon, voilà, très bien. Le soleil s'arrête dans 4 milliards d'années, voilà, l'affaire est pliée. Et puis, Freud, la psychologie, la psychanalyse, nous apprend qu'effectivement, on peut avoir des traumas liés à la petite enfance, des émotions, du mental. Voilà. Et puis on a eu des religions, on a eu des maîtres qualifiés de spirituels, on a eu des gens qui nous ont dit « mais il y a aussi une âme, il y a aussi un esprit, il y a aussi un soi ». Bon, alors donc, ça devenait un peu compliqué. Et puis, justement, quand on fait des recherches, quand on essaye de creuser, on s'aperçoit finalement que l'être humain, c'est tout ça réuni. Qu'il y a vraiment différents niveaux de réalité à l'intérieur d'un être humain. Et que ces différents niveaux de réalité, ils essayent d'évoluer, parfois d'involuer, dans des buts. Bon, après, c'est quel est le but ? Donc ça aussi, c'était une question. Quels sont les buts ? Et puis, on s'aperçoit assez rapidement qu'ils sont propres à chacun. Même si, finalement, on a des points communs, on a autant de différences qui font de nous des êtres uniques. Alors, pour travailler sur cet humain à travers les énergies, on a fait un petit peu le parcours classique qui est celui de travailler sur des points d'énergie, sur des centres d'énergie comme les chakras. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je suis là pour vous, donc il n'y a pas de problème. Hein. Donc les chakras, vous avez pu en entendre parler, il y a une littérature abondante. Hein. Donc, ce sont des portes d'entrée et de sortie de ces fréquences vibratoires. Alors évidemment, il y a différents niveaux. Hein. Il y a les niveaux que je vous ai décrits, il y a un niveau physique, des niveaux émotionnels, mentaux, et des niveaux d'âme. Alors peut-être il faudrait que je décrive un peu qu'est-ce que j'entends par âme. Ce sont des croyances, mais qu'on essaye d'être le fruit de nos expériences. L'âme, ça pourrait être la somme de vos incarnations précédentes, la somme de vos anciens moi. Alors, c'est pas que je crois en la réincarnation, c'est que je constate que, d'après mes observations thérapeutiques, que ça existe. Ou en tout cas, c'est le seul moyen avec lequel je peux expliquer certains phénomènes. Et puis voilà, si on continue comme ça dans ces niveaux de chakras, on arrive à quelque chose de plus indivisible, qui n'est pas polarisé, masculin, féminin, bien, mal, j'aime pas, qui serait un peu notre unité fondamentale, ce qui ne bouge pas à l'intérieur de nous, on peut se sortir 50 termes, hein. Dieu repose en lui-même, bref, etc., etc., ça peut être le soi. D'accord ? Donc ces chakras ont différents niveaux de réalité, et il y en a plusieurs principaux, généralement on parle de 7 ou 8, et ils sont intéressants parce qu'à chaque fois, ils nous parlent aussi d'un niveau de conscience propre à chaque chakra. Par exemple, si on prend le premier chakra, qui est situé entre le sexe et l'anus, il nous relie aux énergies de la Terre. Bon, c'est intéressant. Est-ce que je suis bien dans l'ici et maintenant ? Est-ce que je suis bien dans ce corps ? Est-ce que je suis bien dans ce monde? Question intéressante à se poser au moins une fois par an. D'accord? Et puis, donc, c'est tout notre rapport, justement, à un niveau plus basique, à la survie, à tout ce qui est instinctuel. On a le deuxième chakra qui est situé au-dessus du pubis, qui est le centre des émotions. C'est notre capacité à ressentir, à éprouver des choses. D'accord? C'est notre enfant intérieur, parce que c'est souvent, au départ, quand on éprouve, on a tellement de sensations, et qu'on ne sait pas encore justement poser les limites avec nos sensations. Tout peut être amplifié dans l'enfance. Les petits enfants, une fois ils tombent, ils se mettent à pleurer. S'il n'y a pas quelqu'un qui va leur dire c'est bon, c'est fini, continue quoi. Vous voyez ça? Ben, c'est un peu comme ça souvent à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'il y a encore un petit enfant qui continue à pleurer parce qu'il n'a pas eu assez de papa, parce qu'il a eu trop de maman, parce qu'il n'a pas eu le même camion de pompier que son frère, etc., etc. Ensuite, on a le troisième chakra qui est au niveau du plexus solaire. Alors celui-là, on l'use beaucoup. C'est le chakra du mental. C'est par là qu'on va se relier au niveau socio-culturel aussi avec les uns et les autres. Je pense, donc je suis. Vous êtes d'accord avec ça? Pourtant, c'est ce qu'on croit. Je pense, donc je suis. Seulement quand on essaye de faire le vide, on continue à penser, quoi. Donc qu'est-ce que je suis? Je ne donne pas la réponse, hein, je ne l'ai pas forcément. Mais vous voyez qu'on n'est pas ce mental. Et pourtant, ce mental, il est beaucoup aux commandes de nos vies. D'accord. C'est ça aussi le chemin de conscience, c'est de le remettre à la disposition d'un état de conscience supérieur. Alors le plexus solaire, il est lié aussi aux organes digestifs, etc., au système nerveux. Donc il est soumis à beaucoup d'aléas, avec le stress de la vie quotidienne, la bonne nourriture passée au micro-ondes, un peu de pesticides, un peu d'insecticides, une ou deux antennes portables. Voilà. On a mis beaucoup de choses au point pour améliorer notre plexus solaire. Au niveau social. Le quatrième chakra, qui est lié au poumon, qui est lié au cœur, c'est notre capacité à aimer. Alors, on voit bien qu'il y a bien différents niveaux d'amour. Hein. Ça va de « j'aime les pâtes »,« j'aime bien ma copine ». Et puis, plus on avance comme ça, on peut arriver à « j'aime », tout simplement, sans jugement, sans imposer des choses ou sans cartographier des choses. On a le cinquième chakra, qui est le chakra de l'expression, de la communication. Donc il est relié aussi aux oreilles. Donc c'est notre capacité à entendre, à écouter l'autre. Et puis aussi à dire. Soit. Et le troisième œil, le sixième chakra, alors ça on nous abreuve de mysticisme à propos du troisième œil. Qui est un chakra de créativité, une capacité à être des créateurs. L'être humain, il crée, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'arrête pas. Donc ça, c'est super. Hein. Alors, c'est sûr que des fois, il crée des bombes, des chars, hein, toujours plein de trucs super pour s'amuser avec ses petits camarades. Mais il crée aussi voilà, des œuvres artistiques, des belles maisons. Il est capable de créer tout un tas de choses qui lui sont vraiment propres. C'est-à-dire que, moi, ma croyance, c'est qu'en chaque être humain, il y a un créateur propre. Ça, c'est quand même, je pense, un fondamental de quelque chose qui nous est légué, comme pouvoir, en tout cas, d'être des créateurs. Alors après, c'est comment on l'utilise. Et ce troisième œil, aussi, on peut entendre parler de clairvoyance, de capacité à voir les auras. Hein. Les auras, c'est le champ d'énergie qu'il y a autour de nous. En vérité, ça dépend de plus de choses que ça. Le septième chakra, qui est au-dessus de la tête, connecté à la tête, qui nous relie au cosmos, hein, ça c'est pas très compliqué, parce que si vous allez par là, c'est le cosmos, hein, ça je ne m'invente pas non plus. C'est notre capacité à trouver notre chemin. C'est-à-dire, est-ce que dans la vie je suis plutôt comme ça, je suis un peu déconnecté, ou est-ce que voilà, j'arrive à trouver mon chemin, ma voie. Pas celle qu'on m'a dit, toi t'es bon en maths, tu feras prof de maths. D'accord? Pas celle que la société ou une civilisation me construit. Plutôt celle que je suis par instinct spirituel. Je vais te copyrighter ça. D'accord? Donc voilà, l'idée c'était de pouvoir intervenir sur ces chakras, sur ces centres d'énergie, à travers l'imposition des mains, évidemment à travers la parole, et puis de redonner le pouvoir de guérison au patient. C'est-à-dire d'arrêter d'être dans une vision que c'est le thérapeute qui guérit le patient. Moi, ça ne m'intéresse pas de guérir les gens. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils puissent trouver des clés, eux, pour se guérir. C'est très un peu différent comme approche, mais c'est vraiment ça l'idée. Et puis, justement, de se servir de l'intuition, des perceptions extrasensorielles, pour essayer de dire, tiens, voilà, il y a une maladie, il y a une problématique, il y a un blocage, peu importe. Qu'est-ce que je sens? Je sens que c'est bloqué, c'est froid, c'est chaud, c'est une tension. Quelle est cette tension? C'est une colère. C'est une colère envers qui? C'est une colère envers le conjoint. Ok, très bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en lumière pour la personne et qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer comme changement possible, si ça lui convient, à placer à l'intérieur d'elle pour qu'elle cesse de créer cette problématique. Parce qu'en vérité, on est nos propres bourreaux et nos propres sauveurs. Tant mieux. Tant que ça soit pas un pouvoir qui soit donné à quelqu'un d'autre dans la pampa, qu'il faut courir derrière, etc. Et puis un autre phénomène, c'est-à-dire qu'on a pu généralement avoir eu des conflits avec notre papa, conflits avec notre maman ou des absences, on peut nous abandonner ou ci ou ça. Et puis on reste avec ses manques, avec ses besoins. Alors bah des fois on attend qu'ils nous disent enfin qu'on est quelqu'un de bien, puis on attend, puis à un moment on est entre quatre planches et puis on n'a toujours rien reçu. Alors soit on fait du stop sur cette autoroute de la vie, soit on peut replacer cette unité à l'intérieur de nous. Parce que je vais pas forcément trop rentrer dans le détail, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, ce dont on manque, c'est quelque chose que l'on connaît. Si on le connaît, c'est qu'on est capable de l'auto-générer en termes d'émotion. J'en ai fait l'expérience plein de fois, ça marche. Ça marche sur un adulte. Évidemment, quand on est enfant et qu'on n'a pas l'amour d'un des deux parents, on n'est pas capable de le générer par soi-même. Mais en état du moi adulte, on est capable de le générer par soi-même. Ça peut être des trucs très simples. Des fois, je sais pas, vous avez pas trop le moral, puis vous feuilletez par exemple un vieil album photo, puis vous revoyez en vacances avec des amis. Vous dites, ah ouais, c'était chouette, c'était super, il faisait beau, en plus, c'était cool. D'un seul coup, vous éprouvez quelque chose, une sensation, qui n'est pas liée à un fait qui se passe autour de vous dans l'ici et maintenant. C'est parce que vous vous remémorez quelque chose, que vous vous replacez dans cette intention. Et c'est ça qui est assez fantastique, c'est qu'en fait, on a vraiment notre possibilité de régler notre curseur émotionnel de bien-être comme on le veut. Mais on nous a appris que ce curseur, il se réglait plutôt généralement avec le contentement du désir. Ah, je veux une télé, plasma, 3D. C'est vraiment plus. Puis je l'ai pas, alors. Ça me stresse. Ça y est, j'ai enfin la télé, ça y est. Je peux être bien. 5 minutes, hein, parce qu'après, il va me falloir la 4D. Ici, ils vont sûrement, ça va être dans les papiers. Une fois qu'ils auront écoulé le stock. Et puis voilà, on marche toujours avec cette attraction qui d'un seul coup nous contente. Mais ça peut être à d'autres niveaux. Ça peut être si j'étais avec cette personne, si j'avais cette voiture, si j'avais cette place, si ceci, si cela. C'est vrai qu'on a construit notre société là-dessus. C'est pas inintéressant. Mais vous voyez bien que du coup, on est tous en train de courir. Des fois, on sait même plus pourquoi. Hein, si vous allez un peu à l'étranger, d'un seul coup, vous pouvez aller en certains pays, les gens, ils sont là. Ça va, c'est cool. Souris. Oh, ils n'ont pas de télé, on ne comprend pas. D'accord ? C'est pas logique. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bien dans l'ici et maintenant, tout simplement. Ils n'ont pas été encore dans cette espèce de quête du désir effréné où, au bout du bout, on ne trouve pas forcément notre compte. que vous avez des questions? Ça vous semble clair? D'accord. Eh ben, là où j'essaye d'aller, c'est qu'est-ce qui finalement pourrait nous rendre heureux? Peu importe la méthode thérapeutique, que ce soit du magnétisme humaniste ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui me fait mal à l'intérieur de moi? Donc, quelles sont les causes qui créent ce mal? Et quels sont les moyens que j'ai, moi, en tant qu'être humain, pour aller bien, pour être bien? D'accord? Parce que moi, ma croyance, c'est que rien ne nous arrive par hasard. Donc, soit je vois l'univers comme quelque chose de pas sympa, de poissard. Il y en a qui ont du bol, ils ont des parents sympas. Puis il y en a qui n'ont pas de bol, qui n'ont pas des parents sympas. Et puis voilà. Ou est-ce que je me dis, tiens, tout ce qui m'arrive, ça a du sens. Après, le problème, c'est de décoder ce sens. Est-ce que ça vient m'apprendre quelque chose? Ou est-ce qu'effectivement, c'est du hasard et que c'est pas de bol? Si ça vient m'apprendre quelque chose, qu'est-ce que j'ai à comprendre dans mon chemin de vie, dans mon dharma? Faire plus classe. D'accord? Qu'est-ce que ça vient me dire? Vous avez déjà remarqué que des événements se représentaient? D'accord? Que vous étiez avec un conjoint, que vous aviez tel problème, que vous le quittiez, vous en avez un autre qui arrivait, qui avait les mêmes problèmes? Que ça revenait? D'accord? Vous avez jamais eu de synchronicité de rencontrer, pas votre frère, votre ancien voisin, à un moment particulier où vous pensiez à lui, vous le croisez dans une autre ville? Vous devez bien voir dans la vie qu'il y a des signes, des choses qui viennent vous parler, qui vous disent quelque chose. À ce moment, c'est qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Le plus grand stage, c'est la vie. Donc moi, je crois que l'idée, c'est que quels que soient les moyens thérapeutiques qu'on utilise, moi, je crois en celui dont je vous parle, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont très bien, c'est d'évoluer, parce qu'évoluer, ça apporte la paix, et la paix apporte le bonheur. C'est aussi simple que ça. Et le magnétisme est une façon aussi de travailler là-dessus, mais il y en a d'autres, hein, qui peuvent être la méditation, la marche, l'alimentation, c'est toujours un tout. De toute façon, tout à l'heure, je vous ferai des petites démonstrations rapides. Ou lentes, je dirais. L'idée aussi, c'est que il y a de plus en plus de gens qui sont malades de manière environnementale. On voit bien, il y a des problèmes au niveau agricole, il y a des problèmes électromagnétiques. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'au niveau des énergies plus subtiles, on a aussi ces problématiques-là au niveau des habitations. Alors, c'est pas nouveau, hein, pour ceux qui connaissent un peu, la géobiologie, les réseaux énergétiques. Ça fait très longtemps qu'il y a des radiesthésistes, des sourciers dans les campagnes qui s'occupent de ces choses-là. Et donc, nous, on essaye aussi d'aborder justement l'énergie des lieux. Pourquoi? Parce que votre lieu, c'est une représentation de vous-même, c'est un support de vie. Si votre maison, elle est agréable énergétiquement, si vous vous y sentez bien, vous dormez bien, vous êtes à l'aise dedans, et du coup, ça change votre vie. Ça, c'est assez simple à comprendre. Et faut que la logique, c'est que la maison, c'est comme un nid, il faut que ça soit un soutien, et pas quelque chose qui vous dessert. Or, les bâtiments modernes, en dehors de l'aspect on va dire parfois polluant physiquement des matériaux comme la laine de verre, vous n'avez peut-être plus trop vous de cette laine de verre, on a eu beaucoup en France, ou toutes les vernis, certains solvants qui vont dégager des gaz sont nocifs. D'accord ? Mais énergétiquement, on a la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux d'énergie, des vibrations, tout vibre hein, de manière différente, qui font que notre maison, notre appartement, il n'est pas forcément une source d'énergie positive. C'est pas quelque chose qui me recharge, c'est pas quelque chose qui me dynamise. D'où l'importance de mettre aussi ces énergies de l'habitat en ordre. Et pour les thérapeutes, qu'il y en a ici ce soir, là où c'est important, c'est par rapport à nos patients. Il y a un besoin chez nos patients de libérer. De libérer des émotions, de libérer des traumas. Ah oui, on en est tous là. Seulement une fois qu'il est libéré, mon trauma, vibratoirement, il va où? Ça, le truc, quoi. Si j'arrive avec un tas de poussière, je le jette. Ah ben, il y a de la poussière par terre. Merci. Alors, comment je le nettoie, ce truc-là? Hein? C'est pour ça qu'on fait de la géobiologie, c'est-à-dire qu'on va trouver des techniques pour pouvoir nettoyer les énergies, que ce soit dans l'habitat ou dans les cabinets de consultation, pour dégager les tables de massage, les canapés, etc., etc. Parce que tout ça, ça s'imprègne vibratoirement, quel que soit le domaine thérapeutique. Même le canapé à la maison, mais généralement, on pleure moins dedans. Encore que si on regarde beaucoup de films tristes, on ne sait pas. Ou des colères. Donc voilà. En magnétisme humaniste, on avait cette idée vraiment en plus de vraiment travailler sur l'énergie des lieux. Et dans nos pratiques, on s'est aperçu que c'était vraiment le jour et la nuit en termes de résultats. On avait des résultats beaucoup, mais vraiment beaucoup plus rapides et beaucoup plus fluides avec des lieux qui étaient bien équilibrés énergétiquement que dans des lieux qui bloquaient. Et qui bloquaient de plus en plus, parce que quand un lieu n'est pas un bon lieu qui nous relie au ciel et à la terre, eh bien, au bout d'un moment, il s'encrasse. C'est comme si vous faites du feu dans une cheminée et vous n'ouvrez pas la trappe. Remarquez ce qui se passe, vous enfumez la pièce. Ça va ? Oui.
Le fait de se sentir bien dans une maison, est-ce que ça suffit pour ça, pour savoir, pour connaître que les principes sont bons, les codes, c'est un environnement adéquat ? Juste le fait de se sentir bien, son intuition.
Votre intuition, c'est déjà la meilleure, mais effectivement, ça suffit. Simplement, ce qu'il faut peut-être revoir de temps en temps, et souvent les gens le font d'ailleurs de manière naturelle, d'un seul coup, vous modifiez la chambre. Ou vous changez quelque chose dans la cuisine. D'accord ? Et donc ça, symboliquement, ça dit des choses. C'est-à-dire, il y a un moment donné, oui, c'est bien. Et quand j'évolue, la logique, c'est que ma maison, mon environnement, devrait suivre aussi. Ce monde est le reflet de nous-mêmes, hein, rien d'autre. Hein. Nos politiques, demain vous allez voter, sont le reflet de nous-mêmes. Tout est un reflet. Ah oui, c'est ça qui est un peu dur. Hein. Quand on le voit comme ça, on se dit « Ah, merde !» Bon, c'est les hermétistes qui disent ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et inversement. Mais c'est vrai, si vous regardez, c'est un reflet. Dans l'habitation, chaque pièce correspond à une partie de nous-mêmes. Par exemple, si j'ai toujours consacré beaucoup d'espace à mon travail, je pourrais avoir un grand bureau, beaucoup pour le travail, et puis un tout petit canapé, un tout petit salon, puis une chambre plutôt avec des couleurs froides, un endroit où on se dit, tiens, je dors et je m'en vais, parce que c'est juste bon pour ça. D'accord ? Si d'un seul coup, je dis, il y en a marre, on va agrandir un peu le salon, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je suis en train de couvrir à l'intérieur de moi? Tiens, je change le lit de place. Tiens, maintenant, je vais dormir tête au sud au lieu de tête au nord. Pourquoi pas? D'accord? J'en ai marre de s'y en ferraille, j'en achète un en bois. Je mérite mieux que ça. D'un seul coup, tiens, je commence à être une bonne mère avec moi. Enfin, ça, c'est la fonction mère. La nourriture, pareil. C'est encore des fonctions mères, mais aussi telluriques, c'est d'accord? Donc, c'est plus mon système digestif, mon rapport au monde. Et les toilettes aussi, ça c'est un rapport un tout petit peu plus bas. Mais tout ça est une représentation. Donc si je me sens bien, c'est vrai, est-ce que je me sens bien dans toutes les pièces? Qu'est-ce qui se passe dans la chambre des enfants? Pourquoi est-ce que je garde toutes les affaires de mon fils depuis qu'il a 3 ans? Maintenant il en a 16 ans. Et ça existe. Hein. Les greniers, fantastique. Hein ? Plus près de toi, mon Dieu. Ah bah oui, mais seulement il y a le grenier avant. Hein ? Et qu'est-ce qu'on trouve dans le grenier ? Ben, le bazar, justement. Souvent, d'ailleurs, hein, vous avez peut-être entendu parler de transgénérationnel, hein, de nos héritages familiaux, de choses à résoudre. Mais enfin, nos aïeux, ils sont sympas, ils ont fait avancer plein de trucs, hein, sinon on sera encore en train de courir derrière des mammouths avec des cailloux. Ils travaillent un peu. Mais voilà, en même temps, ils nous transmettent aussi des équations à résoudre. Et c'est vrai que si le grenier, il est rempli d'affaires de l'arrière-grand-mère, on sait même plus ce qu'il y a dedans. C'est tous les meubles aussi, les trucs qu'on garde. Ah bah, c'était à l'arrière-grand-mère. Oui. L'arrière-grand-mère, ça fait longtemps qu'elle est réincarnée, une partie dans les plans supérieurs. À mon avis, elle s'en fiche un peu de ces meubles. Mais nous, on reste accrochés à des images, ou des mémoires, ou des trucs qu'on stocke comme ça. Tu vois, intéressant, quelle est la part de moi qui garde ça? Est-ce que c'est de la peur? J'ai peur de manquer? Ou j'ai peur que si je jette ça, ça appartenait à l'arrière-grand-mère, c'est comme si je jetais l'arrière-grand-mère. Catastrophe. D'accord ? Qu'est-ce qui fait ça ? Il n'y a pas de bien ou de mal. Ça aurait pu être l'arrière-grand-père. C'est simplement, c'est intéressant, c'est de pouvoir mettre de la lumière, de la conscience là-dessus. Est-ce que c'est vraiment moi ? Ouais, j'ai peur. Ok. Quel âge j'ai? Ah ouais, j'ai 10 ans et j'ai piqué un truc à mamie, je me fais engueuler par papa, quoi. J'ai pas 10 ans. D'accord. Qu'est-ce que... Non, il y a une part de moi qui a 10 ans, là, qui a peur. Tiens, elle est où hein? Ben, elle est au niveau de la vessie, c'est ça qui m'a foutu une rouste ce jour-là. J'ai vraiment eu peur. Hein. Vraiment eu peur. C'est la première fois qu'il me claquait comme ça. Et vous voyez, d'un seul coup, il y a un état à l'intérieur de moi qui est un état du moi-enfant blessé. Donc là, on en revient à du magnétisme. Mais il y a toujours le pont. C'est pour ça que je vous fais des ponts comme ça. Tout est lié. Écoutez votre intuition. Moi, c'est intéressant, je trouve, quand je vais faire de la géobiologie chez des gens, c'est intéressant aussi de voir que, par exemple, s'il y a une pollution énergétique, eh bien, la personne, mettons, va installer son lit dessus et va se positionner exactement à l'endroit où elle a déjà une autre problématique pour une autre raison. D'accord ? C'est vraiment comme un aimant. Vous voyez, dans la vie, on attire des événements, ben, on attire aussi des types d'énergie. C'est-à-dire que je sais pas, j'ai mal au foie parce que je mange mal, et puis que je suis vraiment en colère après mon patron qui m'engueule tous les jours, eh bien je vais m'installer sur une zone polluée et placer mon foie sur cette zone polluée. C'est pas du systématique. Et c'est intéressant de voir jusqu'où inconsciemment on va créer des choses ou s'arranger pour. Et inversement, des personnes, plus les personnes s'équilibrent, plus on voit. Moi j'ai déjà vu des personnes, ils ont pas de connaissances là-dedans, mais ils sont bien positionnés. C'est chouette quoi, comme quoi, plus je suis en or à l'intérieur, plus l'or se crée à l'extérieur. Ah, intéressant. Parce que nous, on passe notre temps à dire, ah oui, mais je vais essayer de bricoler un peu à l'extérieur, je vais essayer de repeindre mon conjoint, changer de voiture, changer de conjoint, repeindre la voiture, peu importe. Et on voit bien que ça tient pas comme histoire, souvent. Hein, qu'il va falloir revenir à un moment donné à comment est-ce que je crée ça dans ma réalité? Quelle est la part de moi qui génère ça? Comment est-ce que j'interagis avec ce monde? Vous voyez ça? Et c'est souvent placé dans du non-conscient. Et l'avantage justement aussi de l'imposition des mains, peut-être par rapport à des techniques qui sont plus mentales, on croit que c'est pas important de mettre son mental en ordre, c'est de pouvoir aller sentir dans toutes les zones du corps. Comment est-ce que ça pense? Comment est-ce que ça vit? Qu'est-ce que ça dit? Et de quoi ça a besoin? Parce que tout notre corps pense. Alors pour des détails plus énergétiques, pourquoi tout notre corps pense? Pour ceux qui ont fait un peu de recherche en énergétique, on a effectivement une aura, hein, c'est un peu comme les chakras, avec différents niveaux de conscience. Et on a une première couche qui est la couche éthérique, hein, qu'on voit sur les photographies Kirlian, qui est plus liée au physique. Et on a une deuxième couche qui est émotionnelle et une troisième qui est mentale. Et ces niveaux de rémanation de fréquences, qui sont quelque part, aussi étonnant que ça puisse paraître, plus réels que notre corps physique, sont sur l'ensemble du corps. Tout va bien. Donc c'est intéressant, ça veut dire que je peux avoir des pensées au niveau du genou. Pas simplement avec mon hémisphère gauche. Il y a des choses qui pensent et qui stockent à différents endroits dans mon corps. C'est ce qu'on retrouve à un autre niveau, en décodage biologique, si vous avez déjà entendu parler de décodage biologique, qui dit, je vous fais une caricature, mais j'ai mal au foie, c'est la colère. La vessie, c'est les peurs profondes. Hein, ça va être, voilà. Donc ça veut dire que si ça se stocke là, c'est parce que ça ressent et ça pense. Si avec ma tête qui pensait, tout devrait être stocké là.